Melody, la radio vintage forever.
Elle a parcouru les plus belles scènes de France derrière l'un de nos plus grands artistes. 4 années d'une folle aventure professionnelle qui lui ont offert une vie effrénée faite de lumière et de paillettes. Pourtant, sa vie ne peut se résumer au pas rythmé des Claudettes. Derrière les chansons populaires se cache une femme libre et indépendante que Melody Radio vous propose de découvrir aujourd'hui. Carole Plumel, bonjour.
Bonjour, enchantée.
Merci de nous recevoir ici, chez vous, à Trouville.
Ouais, ben oui, à Trouville, où je me suis installée au mois de mai. J'en rêvais depuis longtemps.
Oui, nouvelle vie.
Nouvelle vie, je voulais habiter en bord de mer. Et le climat est super, les gens sont cordiaux, c'est cool. Y a pas c'est vraiment très, très cool ici. Les gens sont... C'est agréable, il n'y a pas d'agressivité, quoi. C'est fluide.
La Normandie. La Côte Fleurie. Et aussi un livre, Carole Plumel, J'y pense et enfin j'oublie. Voilà, ouais. Je le montre bien à la caméra pour nos téléspectateurs, que vous avez écrit, qui vient de sortir.
Oui.
Et c'est votre 1001e vie, votre second ouvrage.
C'est mon petit-fils, ma 1001e vie. Ah. Mais quelque part, c'est aussi... C'est tout un enchaînement de choses, en fait. Ma fille a eu un enfant, je déménage.
Oui.
Et puis voilà, c'est notre ma 1001e vie, effectivement.
Et on va l'évoquer, toutes ces vies, vous l'évoquez dans le livre, on va l'évoquer ici, dans Les plaisirs démodés, puisque c'est le nom de cette émission.
Oui.
On en parlait un peu en off tout à l'heure. Je vais vous demander votre plaisir démodé de la chanson française.
Alors, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses que j'aime de la chanson française, que c'est quand même, surtout les années 80, 90, c'est quand même vachement rythmé, vachement sympa. Vachement gay.
Ouais.
Il y en avait une que j'aimais bien écouter avec ma fille parce qu'on la chantait en boucle. C'était ces idées-là de Bertignac.
De Louis Bertignac.
Le guitariste du groupe Téléphone.
D'accord.
Et c'était le « ouh » qu'on chantait avec ma fille dans la voiture. Et j'adorais cette chanson. Et elle me ressemble un petit peu. Parce que quand on écoute les paroles,
il ne faut pas me laisser traîner là,
etc.
Oui.
Je ne suis pas si fort que tu crois, etc.
On va l'évoquer tout ça, vous en parlez notamment avec vos rencontres au fil de votre ouvrage. Donc c'est ces idées-là de Louis Bertignac, Mille et une vies, on va rentrer dans dans une des vies que tout le monde connaît, je pense, votre vie de Claudette, qui a duré, vous me le disiez, 4 ans.
Et voilà, jusqu'à début 78, donc 4 ans, 3 quarts on va dire. Et donc, j'ai arrêté parce que, bon, voilà, pour mon ami qui en avait assez que je parte. Et je comptais revenir, hein, de toute façon, parce que je suis partie déjà une fois. Je suis partie 3 semaines à Goa, en Inde, mais je suis revenue. Mais là, j'avais envie de faire un petit break, quelque part. Et Claude m'a rappelé pour le concert à Londres.
Et
le Royal Albert Hall.
Et vous écrivez, on ne refuse rien à Claude.
Non, oui, ben non, non.
Et donc tout ça a commencé peut-être de manière... c'était un pur hasard, votre rencontre avec Claude François.
Totalement, parce que comme je ne quittais pas France, on ne se quittait pas.
Oui.
On se voyait tous les jours. Et elle m'emmenait dans toutes ses émissions de télé, même elle allait beaucoup à Cologne, en Allemagne, pour chanter Poupée de cire, Poupée de son.
Mm-hmm.
Donc là, elle m'emmène, et il y avait tous les artistes français, vraiment, Ringo. Enfin, ils étaient tous là de l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions de variété à l'époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et donc, France avait la loge en face de Claude. Et Claude est arrivé un peu, il avait fait son titre, il est arrivé un petit peu énervé. Et il me regarde et il me dit, est-ce que tu sais danser? Je dis, bah, j'ai fait un peu de classique petite. Et il m'a dit, ben, rendez-vous au boulevard Exelmans ce lundi.
Qui étaient les bureaux de Claude François.
Absolument.
OK.
Donc, le lundi, j'arrive avec une petite jupe plissée. Et Pat, qui s'occupait des chorégraphies à l'époque, elle me fait faire, ça s'en va et ça revient. Donc, j'ai fait 3-4 pas. Il m'a dit, OK, c'est bon. Et là, j'ai attaqué. J'ai dû apprendre toutes les chorégraphies de toute la tournée, en fait.
D'accord.
De tous les titres.
En 2 mois. Et
ouais.
Oui, là, vous l'écrivez, vous avez été coaché. C'est
oui,
Claudette
Pat.
C'est Pat qui vous a appris.
Oui, oui.
D'accord. Et donc, quand il vous repère, c'était sur le coup de l'énervement? Est-ce que c'était une question de physique?
J'en sais rien. Peut-être que ça n'allait plus avec une des danseuses.
Okay.
Donc, voilà. Donc, un changement devait se faire.
Et vous, Claudette, bon, vous dansiez dans votre ouvrage, vous le dansiez dans les boîtes de nuit. Mais c'est quelque chose dont vous rêviez?
J'ai toujours dansé, en fait. Et même avant Claude, j'étais dans un petit groupe.
Ouais.
On faisait un petit peu de scène, il n'était pas connu. Mais j'étais dans un petit groupe de danseurs. Et puis quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, j'allais dans une boîte à Paris où ma mère m'autorisait d'aller. Mmh. Et il n'y avait que du Motown, des chansons de Motown. Et j'allais danser l'après-midi toute seule.
D'accord. Et c'était votre genre préféré, il me semble. Vous n'écoutiez pas ou peu de Claude, François ?
J'écoutais...
Clapton, c'est ça ?
Oui.
Vous le dites dans le livre.
Clapton, les Pink Floyd,
okay.
Que j'essayais d'inculquer à ma mère. Et j'écoutais effectivement les Stones, tout ça. Enfin, bon. Mais Claude, j'aimais bien, mais je n'étais pas fan comme certaines des Claudettes qui étaient fans. Y avait quelques chansons que j'aimais bien, je veux dire, j'étais pas... Mais je n'ai jamais été fanatique d'artistes, mais j'écoutais plus de chanteurs américains.
Et oui, ça, vous le dites aussi, dans votre métier, dans toutes les tournées que vous avez pu faire, vous n'avez jamais été fan de tous les grands noms. Vous avez dû rencontrer Sardou, Jean-Johnny, tout le monde.
Oui, tout le monde.
Mais vous n'étiez pas fan.
Non,
vous étiez,
non.
C'était des gens normaux pour vous.
Voilà, parce qu'on se rencontre, ça devient très vite convivial. Tout le monde se tutoie. À l'idée, je l'ai croisé plein de fois après. On s'est toujours fait la bise. Il était vraiment sympa ce mec. Et voilà, donc quand tout le monde se retrouve dans une émission de télé, etc., on est là, on fait partie de la même famille, en fait.
Mmh. Et donc des saltimbanques, des baladins.
Voilà, et c'est un beau moment qu'on passe ensemble.
Ouais.
Ouais.
Et la première qui vous a mis le pied à l'étrier, alors ça, c'est expliqué dans le livre, mais on se pose la question, c'est France Gall.
Ouais, ouais.
Racontez-nous, vous étiez au restaurant à Megève, elle vient vous voir comme ça.
Oui, elle vient me voir comme ça. Ben, elle était avec son amie, et peut-être qu'elle avait envie d'une copine, elle s'ennuyait peut-être, j'en sais rien. Et elle demande à ma mère, est-ce qu'on peut l'emmener ce soir ? On la ramène pas tard et tout. Il y avait une boîte sympa à Megève.
Oui.
Et donc, voilà, et on est parti avec son amie à Megève. Voilà, et puis je suis rentrée à minuit, quoi.
Vous êtes rentrée... Oui, parce que et ça voilà. Aussi, votre maman...
Oui, toujours minuit, jusqu'à mes 18 ans. Hein.
Jusqu'à vos 18 ans, ouais. Vous avez été émancipée.
Absolument.
Et vous mettez dans le... Vous l'expliquez, c'est une amitié qui a duré jusqu'au bout avec France
Gall.
Jusqu'au
bout, on s'est un petit peu fâchés quelques temps, mais moi, je suis partie beaucoup en Argentine. Mm-hmm. Elle avait beaucoup de travail quand elle était avec Michel.
Oui.
Donc, il y a eu un moment où on s'est un peu moins vus, mais on s'est retrouvés après.
Et cette rencontre, alors, vous la devez à France Gall qui vous
Absolument.
A dit...
C'est grâce à France. Et France, je me souviens, on était attablées toutes les deux et elle me dit, Carole, c'est la chance de ta vie. C'est la chance de ta vie. Elle était toute contente pour moi, vraiment.
Que Claude François.
Ah ouais, elle était vraiment heureuse pour moi.
Et en plus, à cette période-là, ce n'était pas gagné qu'ils se revoient, Claude François et France Gall.
Non, mais ils s'entendaient bien. Ça avait l'air d'aller.
En 1974, c'est ça ?
Exactement.
Ils se sont retrouvés. Il y a une émission, je ne sais pas si c'est celle-là, cette émission, on les voit chanter tous les deux.
Oui.
C'est celle-là où vous
Non,
avez
non, c'est pas
Claude
celle-ci, non.
D'accord,
non,
ok.
Non, c'est pas... Ça devait être avant moi, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir croisé France, d'avoir vu France dans un duo avec Claude.
Ok.
Sinon, je m'en souviendrai quand même. Je pense que c'était avant que j'arrive.
D'accord, donc après, vous partez dans votre vie de Claudette.
Oui.
Effrénée à mille allures, une
ah,
vie...
Oui. Ah oui. C'était vraiment une on était une bande de guélurons.
Oui.
Et on s'amusait bien, c'était mais bon, il fallait travailler en même temps.
Et c'était une famille, vous parlez de vos soirées dans le bus après les concerts.
Ah ben oui, et on est toujours on se voit toujours, il y en a deux qui ont disparu mais on se voit toujours, on a tous des on se quitte pas quoi. On est vraiment, je crois que c'est la seule troupe qui est restée soudée.
D'accord, dans le showbiz.
Ouais, soudés. Slim est parti il n'y a pas longtemps, le guitariste. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a toujours été très soudés pendant de longues années. Et voilà, c'est une grande famille.
Et vous n'étiez pas fatigué quand vous partiez comme ça, de chapiteau en chapiteau ou...
On faisait. D'ailleurs, il nous est arrivé un jour de faire. On était en Belgique, mm-hmm. jusqu'à Andorre. Vous voyez, l'opposé.
Ça fait une distance.
Ah oui, des distances incroyables. Alors, l'été, ça allait parce qu'on logeait au Martinez ou alors on allait dans un petit hôtel, je me souviens, qui était hyper sympa, dans le Var. Et donc, on tournait autour. Mm-hmm. Mais sinon, quand on avait des galas, parfois, il y avait 800, 900, 1000 kilomètres à faire. Oui. Donc, on ne dormait pas beaucoup, on dormait dans le car.
Vous dormiez dans le car.
On dormait
vous
pas à l'hôtel.
Fête aussi.
Ah oui, oui. Après, il fallait se lâcher un peu. Hein.
Ouais.
Parce que 2 heures sur scène, non-stop, c'était assez gai dans le bus. Hein.
Bon, et on va parler aussi
on se marrait bien.
Vous mariez bien ?
Ah ouais, c'était la fête dans le bus.
Oui, parce que vous avez toujours
jusqu'à
aimé la nuit.
Jusqu'à ce que tout le monde tombe, jusqu'à ce que tout le monde dorme. On avait chacune nos banquettes pour dormir. On installait nos manteaux, mais ça partait en live après. Et il faut bien décompresser. Hein.
Et oui, et puis vous faites la fête, mais votre drogue la plus dure, ça reste celle du public.
Ah bah,
vous l'écriviez, ah oui. Rien ne remplace ça.
Non, la scène, c'est vraiment de l'adrénaline. C'est de l'amour pur, quoi. C'est une drogue, ouais. C'est vraiment une drogue. Et je comprends tous les artistes qui ne veulent pas la quitter,
oui.
Qui ne veulent pas quitter la scène, parce que c'est le public donne tellement d'amour. Bon, il le donnait à Claude, évidemment, mais nous, on le prenait en même temps, quoi.
Oui, vous étiez
on
là.
On prenait cet amour en même temps.
Vous étiez combien? 4 Claudettes tout le temps, pas plus?
4, 6, 5, ça dépendait. Moi, j'étais entre les deux parties. Le groupe avec qui j'étais, il y avait donc Peggy, Katie, Pat, Marion et Julie. Et ensuite, ça a changé, donc j'ai eu la chance de connaître les deux. Et après, il y a eu Prisca, une autre Katie, Marion qui est restée un peu, comment elle s'appelle, Sandra, et Dani.
Et Dani. Alors, vous partiez dans vos tournées tous ensemble, mais pourtant, vous avez bien failli ne jamais faire partie des Claudettes, puisqu'il vous est arrivé votre première scène.
Oui, oui, la première scène.
Racontez-nous,
ouais.
Vous le racontez dans le livre.
Ah oui, j'ai été virée. Oui. Alors, je me suis cassé la figure sur des escaliers. Ben, en fait, quand c'était l'hiver, on avait des loges qui étaient assez loin de la scène. Et c'était des chapiteaux à l'époque. On faisait des scènes dans des grandes salles de scènes, mais je veux dire genre Bercy, etc. Mais c'était dans les grandes villes, genre Lyon, Marseille, etc. Mais on faisait beaucoup de chapiteaux dans des endroits qui étaient un peu dans les campagnes. Et donc là, on montait des chapiteaux. Donc il y avait toute la condensation qui tombait et on glissait facilement. Et moi, c'était des petites marches en bois, et je m'en suis loupée une. Et voilà, donc je suis arrivée en retard. Donc là, je ne suis pas arrivée carrément.
Et vous n'aviez pas un trou dans le collant aussi?
Ah, ça, c'était en Afrique.
Ah, c'est en Afrique.
Ça, il l'a vu, le trou. Hein.
Ah, voilà, c'est ça.
Il l'a vu parce qu'en fait, c'est des collants vraiment couleur chair.
Oui.
Et il faut le voir, hein, mais il avait des antennes partout.
Oui, ça
vous... Il entendait une mauvaise note, il voyait... Si nous, on était impeccables, et moi, voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit de partir. En plus, j'avais un peu attrapé la malaria, donc j'étais pas super en forme. Et le lendemain, d'ailleurs, je l'ai pas fait, il était pas content, mais il m'a dit, moi, quand j'ai 42 fièvres, je me monte sur scène. Et moi, j'étais pas.
Ouais.
Et donc là, reviré.
Oh là là.
Mais bon, c'était 48 heures, quoi. C'est un coup de gueule. C'était sa façon de punir, en fait.
Donc, vous disiez que c'était un coup de nerf, un coup de chaud.
Oui.
Mais Claude François, il était toujours à 365 degrés.
Ouais.
Un professionnel, il regardait tout.
Il voyait tout.
Il gérait tout.
Il gérait tout, il ne voulait pas déléguer, de toute façon. C'était lui le patron, quoi.
Et mais également pour ses chorégraphies, c'est lui qui les créait.
Il créait surtout, il trouvait toujours une idée pour le refrain, le... Ah, c'est lui, par exemple.
D'accord.
Et en fait, c'est ce qui marque le plus les gens.
Oui.
Mais sinon, on avait des chorégraphes.
Il y avait des chorégraphes. Mais lui, il sentait
lui,
le truc
il mettait
en plus.
Sa touche.
Oui.
Il mettait sa touche et il avait toujours très bonnes idées. Hein.
D'accord.
La preuve, parce que tout ce que gardaient les gens en tête, c'était vraiment ce qu'il avait trouvé, quoi.
C'est pas dense. Et c'était pas compliqué de le rythme effréné des pas ou...
Ah oui, parce que sur scène, c'est deux, voire trois fois plus rapide. Hein. Stop. Au nom de l'amour, avant qu'il soit trop tard. Stop. Enfin, c'est... Alors qu'à la télé, c'est stop. Au nom de... Vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi.
Ouais.
Non, c'est sur un rythme effréné, ouais.
Et vous faisiez combien de tournées par an? Tiens,
Tous les week-ends, on partait soit en Belgique, soit au fin fond de la France.
Combien de galas, pardon? Excusez-moi, pas tourner.
Par an, je pense deux par semaine, donc il fallait faire le calcul à peu près.
Deux par semaine,
ah,
d'accord.
Oui, deux par semaine, le week-end.
Claude François tournait que le week-end, parce que les autres jours...
C'est télé, beaucoup de télé.
D'accord.
On faisait beaucoup de Ricard, beaucoup de Guy Lux, beaucoup Midi Première.
Oui.
Il y avait toujours plein de télé, quoi.
Et beaucoup de personnes disent que...
Et il fallait des répétitions, pardon.
Non, je vous en prie.
Les répétitions aussi...
Et beaucoup de personnes disent que si Claude François n'était pas parti, on va l'évoquer bien sûr,
ouais.
Il se serait tourné vers la télé. Il aimait la télé.
Oui, il aimait la télé parce que justement, il avait ce côté, il était, je veux dire, il voyait tout, il captait tout. Je veux dire, moi, je suis pareil, quand je regarde un film, je regarde les défauts, par exemple. Vous voyez quelqu'un, il a la cravate là, le plan d'après, il a la cravate là. Enfin, je veux dire, et lui, c'était ça, quoi.
D'accord.
Il regardait tout, et il voyait tout, il entendait tout, et il avait l'œil partout, quoi.
Oui.
Et donc, je pense qu'il aurait été un très bon réalisateur. Très bon metteur en scène et très bon réalisateur. En tous les cas, oui, il était vraiment. Je pense qu'il aurait été peut-être derrière la caméra.
On va poursuivre sur vos mille et une vies, hein, mais on va rester encore un peu sur Claude
Ou
François
peut-être produire, excusez-moi, peut-être produire
Oui.
des jeunes chanteurs aussi. Il
Oui,
l'a fait d'ailleurs,
il a
en
lancé les
chant
chants forts.
fort, etc. Oui. Chèque.
Exactement. Et oui, on va revenir sur vos mille et une vies, mais j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui passe souvent à la télévision. Quand on évoque Claude François, on dit toujours qu'il était tyrannique, qu'il était dur, on entend
Non,
beaucoup de
mais
choses.
attendez, les patrons d'entreprise, là, vous ne
Voilà.
croyez pas qu'ils sont odieux? Ils sont, à mon avis, beaucoup plus odieux que lui. Hein.
Vous qui avez été Claudette, alors sur l'antenne de Mélodie, dites-nous comment vous avez ressenti votre vie avec Claude
Non, mais moi,
François, tout
j'ai
s'est bien
jamais.
passé?
Mais non, mais c'est normal que quand il sort de scène, ça peut pas être. Enfin, c'était parfait parce qu'il voulait que ça soit parfait.
Ouais.
Donc, les musiciens et les danseuses et les choristes, on faisait tout pour que ça soit parfait. Mais s'il y avait quelque chose qui le dérangeait, c'est normal qu'il nous le dise. Bon, il n'allait pas nous le dire, bon, tu as fait une petite erreur là, c'est pas bien. Hein. C'est normal qu'il s'énerve un peu, je veux dire. Et ça ne durait pas longtemps, parce qu'après, on avait tous dîné ensemble. Je veux dire, voilà, c'est un coup de gueule. En plus, lui, il sort de 2 heures et demie de scène, où à la fin, il jette son peignoir, sa chemise. C'est un petit peu normal qu'il soit sous tension quand même.
Bien sûr.
Et je pense que qu'un PDG d'une grosse boîte, il doit être beaucoup plus machiste, désagréable, parce que Claude n'avait pas ce côté-là.
Voilà, OK.
Pas du tout. Et vraiment, bon, moi, ces coups de gueule, je les comprends parfaitement, quoi.
Oui.
Et ça ne durait pas. Après, c'était hop, on va dîner chez Gu ou je ne sais où.
Et un patron tyrannique, est-ce que c'est un patron qui vous loge au Martinez dont vous
Oui,
parliez tout
voilà,
à l'heure?
exactement. Et est-ce que c'est un patron qui vous emmène dîner, on fait la fête après et il offre des cadeaux? Enfin non, c'est pas un patron tyrannique. Il avait le cœur sur la main, ce garçon.
Mais le boulot, c'est le boulot. C'est ça que vous me disiez tout à
Le
l'heure.
boulot, c'est le boulot. Voilà.
Par
Mais
42 fièvres,
voilà, par
il...
respect pour lui, il fallait quand même être carré, quoi. Il fallait faire son travail, je veux dire. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi, Claude? Parce que tout était carré.
Ouais.
Tout était parfait. Je veux dire, quand on regarde des danseuses, il y en a une qui va à droite, enfin, c'est pas beau à regarder. Mais nous, quand on passait en télé, tout était réglé à la lettre, à la note de musique,
Et
quoi.
c'est pour ça que vous l'appeliez le coq
Oui, c'était son surnom, le coq.
entre vous.
Entre nous,
Et
oui.
pourquoi vous l'avez trouvé? Parce que
Moi, je suis
c'était le
arrivée,
patron, il vous
ben, le
protégeait.
coq, quoi. C'est le coq, la basse-cour. Moi, je suis arrivée, on l'appelait déjà le coq, donc. Voilà, ouais, c'est le coq et puis tout son petit poulailler, quoi.
Claude
Voilà.
François, un personnage médiatique. Et
Ah, on en
allez,
parle encore, je crois qu'il y a un Paris Match qui vient de sortir
sur
là.
Claude
Mais
François.
oui, c'est incroyable.
Mais on dit aussi beaucoup, on dit tout et son contraire, beaucoup
Ouais,
peut-être de bêtises. Et vous l'écrivez dans le livre, alors je le remontre, encore une fois, j'y pense et enfin j'oublie. On raconte qu'il couchait à droite à gauche,
ouais,
et
mais bon.
même on a pu lire avec les Claudettes. Et là, vous mettez dans le livre un point final, vous n'apprendrez rien de ça puisque c'est des bêtises.
C'est des bêtises parce que, en fait, bon, moi, déjà, il n'était pas question parce que on ne mélange pas le travail. Je veux dire, c'était pas possible pour moi.
Oui.
Je veux dire, j'étais avec quelqu'un, il m'a jamais manqué de respect. D'ailleurs, il me disait toujours, tu es tellement sage que tu vas finir par avoir des toiles d'araignée.
Oui, ça, on le voit, vous l'écrivez.
Voilà, et donc, il respectait ses Claudettes, donc elles avaient toute une vie à côté. Hein.
Oui.
Donc voilà, donc il n'y a pas eu ce genre de coucherie. Je veux dire, il avait ses fiancées. Moi, j'ai rencontré Sophia, Kathleen. Et il y en a une, entre-temps, je ne me souviens plus trop son nom. Mais je veux dire, il était toujours amoureux d'une femme.
Oui, et en fait, tout
Voilà.
ça, depuis 45 ans 46 ans qu'il est parti, c'est pourquoi? Pour vendre du papier? Pourquoi on
Mais
parle
parce
tout le
qu'en
temps de
fait,
ça?
on a tellement raconté de choses sur Claude que maintenant, on cherche du sale.
Du voyeurisme, peut-être?
C'est même pas du
Oui,
voyeurisme.
parce que c'est
On
faux.
essaye de le détruire d'une
Ouais.
façon ou d'une autre. Pourquoi? Je ne sais pas. parce qu'il n'y a plus rien à gratter sur le papier, c'est ça. Donc, il faut aller chercher des choses. On a entendu un truc, donc ça y est, on va faire un papier. C'est insupportable, quoi. Parce que Claude, j'ai bien connu, et nous qui l'avons bien connu, on sait exactement comment il est. Et moi, je ne l'ai jamais vu. C'était un homme bien élevé, c'était un homme charmant, délicat, hyper bienveillant, généreux.
Oui.
Non, il faut arrêter de dire des horreurs sur cet homme, quoi.
Il faut rétablir la vérité. Et, bon, alors, vous parlez, c'est un livre autobiographique, c'est un récit autobiographique. Mais vous rétablissez une part de vérité d'ailleurs dans ce livre.
Ah mais oui, complètement. Et à chaque fois que je fais une télé, j'ai rétabli parce que ceux qui sont en face de moi,
ils disent n'importe beaucoup.
Bah oui, oui, oui. J'ai fait Hanouna et il y en avait un producteur d'émission qui était là. Il a parlé de drogue. Trois fois, je lui ai dit non, il prenait pas de drogue, mais il continuait. Ça m'a un peu agacé.
Ouais. Claude François, on a dit beaucoup de choses sur lui, mais on sait également ben voilà, qu'il est parti tragiquement.
Il est parti trop tôt. Il avait peur de la mort, Claude.
Vous en parliez. Vous dites d'ailleurs que vous l'avez vu donc, un mois et demi avant sa disparition, quand il vous rappelle pour la télé. La télé à Londres, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Pour la télé à Londres. Et quand vous le voyez un mois et demi auparavant, vous ne l'avez pas reconnu à ce moment-là.
Non, j'ai trouvé qu'il avait les traits tirés.
Oui.
Et j'ai même vu une photo qui m'avait choquée, quoi. Il avait un visage, il était parti déjà. Il n'y avait plus d'éclat dans son regard. Il était comme marqué, il était comme un peu gris. Enfin, elle m'a choquée, cette photo.
C'est la photo où il est au chalet en Suisse, où il est habillé en rouge. Il y a cette photo qui a été prise en Suisse peu de temps avant sa disparition, avant qu'il rentre.
J'en ai vu une en gros plan, donc je ne sais pas ce qu'il y avait derrière.
D'accord.
Mais c'est vrai que moi, ça ne m'a pas trop choquée quand je l'ai vu en Suisse, mais c'est après, les quelques jours avant, quoi.
D'accord.
J'ai vu une photo de lui, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'éclat sur son visage.
Oui.
Et ça m'a fait vraiment drôle. Et il disait toujours qu'il voyait une femme assise sur son lit, une femme en noir. Et il avait peur de ça, quoi.
Il avait peur de la mort.
Ouais, il avait peur de la mort. On a tous peur de la mort, mais je veux dire, lui particulièrement, quoi.
Et comment vous avez appris sa disparition? Vous étiez en
Suisse? À Megève aussi, encore une fois. Et j'allais rejoindre ma mère chez le coiffeur. Il y avait un petit magasin de vous savez, des
postes vintage.
Voilà, des parkas kaki de l'époque, un peu, comment ça s'appelle, bon, bref.
Des D-Day? Un magasin, une réserve militaire, non?
Oui, voilà, mais il y avait un surplus américain.
Un surplus américain.
Voilà, une sorte de surplus américain. Ils avaient une petite radio, donc, de verte, kaki, et j'entends que Clo-Clo est mort. Et ça, c'était pas croyable pour moi. Donc, je cours chez le coiffeur, ma mère était sous le casque. Je cours et je pleure dans ses bras, je dis que Claude est mort. Enfin, c'était hyper choquant, quoi, parce que je l'avais vu la veille ou deux jours avant, quoi.
Et après, vous prenez le train en première classe.
Enfin, moi, je n'étais pas là pour la dernière émission. J'étais déjà partie. Donc, j'avais dû le voir. J'exagère quand je dis deux jours. Mais pour moi, c'était deux jours. Mais j'avais dû le voir un mois avant, quoi.
Donc, vous prenez le train.
Parce qu'à Les Uns, je n'étais pas là.
Pardonnez-moi ?
À Les Uns, je n'étais pas là.
OK.
C'était ses derniers moments, à Les Uns.
Et après, il prend son avion.
Voilà, ouais.
Et donc là, vous prenez le train en première classe. Vous le dites, ça, c'est marrant, si je puis me permettre. Vous s'en profitez. Vous prenez, pour la première fois de votre vie, vous voyagez en première classe, super, wagon extraordinaire. Vous rentrez à Paris.
Oui, avec ma mère.
Avec
il y avait
maman.
Des wagons magnifiques à l'époque, tout en acajou avec des draps blancs.
Mais vous profitez de rien tellement vous êtes effondré.
Non, il fallait aller. D'abord, on a été tous le voir sur son lit de mort.
Et c'est ça, et vous ne l'avez pas reconnu.
Ça m'a choqué, ça. Non, j'ai vu cet homme inerte, lui qui était mille à l'heure. Tout petit, ça m'a fait drôle. Enfin bon, ça m'a... Et ses deux doigts brûlés, quoi.
Par la
et
pluie.
J'avoue que... Moi, j'ai vu mon père mort aussi. C'est dur pour moi, quoi. J'y suis allée parce que j'aimais Claude, mais c'est dur à voir, quand même. C'est une image qu'on garde à vie.
Mmh.
Ma mère, j'ai pas voulu, vous voyez. J'ai pas voulu regarder, imaginer.
Et là, tout d'un coup, tout s'effondre.
Tout s'effondre, tout.
Professionnellement, bien sûr, et la France aussi est totalement émue.
Ah non, mais la France est effondrée, quoi. Bouvard Exelmans, s'il y avait tout été, les gens étaient. C'est tellement inattendu, c'était tellement. Je veux dire, ça vous est tombé dessus comme ça, comme un rocher sur la tête. Oui. Tout le monde était choqué, en larmes. Et puis, il y avait des fans qui ont voulu se suicider quand même. Ça a fait des ravages pour les fans.
Et au moulin de Dannemois, enfin au cimetière de Dannemois, vous racontez que vous... Bon, comme tout le monde, je pense qu'on ne fréquente pas souvent les cimetières.
Moi, j'aime pas aller dans les cimetières.
Et vous racontez qu'un jour, vous vous recueillez sur sa tombe.
Oui. Et qu'il y avait une personne allongée derrière.
Une personne allongée derrière.
Ouais, ça m'a fait peur, oui. Ça m'a fait un peu flipper. Mais les gens, ils vont régulièrement. Hein.
Ouais.
Vous savez que cette tombe, elle est fleurie. Ils vont refaire une statue encore. Elle est magnifiquement fleurie. Les gens, ils vont régulièrement s'occuper de cette tombe. Moi, je trouve que les fans sont d'une fidélité et d'un amour qu'ils portent à leur idole. C'est incroyable, quoi. C'est fou, hein.
Et de toutes les générations.
Toutes les générations.
Oui.
Il y a les parents, il y a les enfants qui sont maintenant grands et des jeunes enfants qui aiment bien. Pourquoi ils aiment bien? Parce qu'ils ne l'ont pas connu, certes, mais Clo-Clo, c'est gay, quoi.
Ça passe partout, on lit tout le temps les mariages, les baptêmes.
Mais oui, les chansons sont gays.
Les soirées étudiantes.
Voilà, ouais. Oui. Partout.
Partout.
Ouais.
Eh oui, Claude...
Même pour les bizutages.
Et même pour les bizutages, pourquoi pas. Claude François, il est parti il y a 46 ans, le 11 mars 78. Comment vous expliquez d'ailleurs, c'est à cause de ses chansons gays qu'il reste toujours numéro 1.
Mais je crois que c'était...
Pourquoi
comme
il
dit Fabien, très souvent, c'est un sphinx, cet homme.
Un sphinx.
Et je pense que... Moi, je dis tout le temps, cet homme, il est venu sur Terre pour faire une mission. C'est-à-dire rendre les gens heureux. Parce que sachez que beaucoup de fans ont eu des enfances très, très difficiles.
Oui.
Il y a eu beaucoup de violence chez beaucoup de fans. Il y a eu des drames. Et elles ont trouvé leur bien-être auprès des chansons de Claude.
Auprès de Claude François, oui.
Voilà, c'est-à-dire que chez elles, quand elles n'étaient pas bien, elles écoutaient Claude François et ça les rendait mieux. Parce que pas mal ont eu des enfances malheureuses. Avec des drames.
Et Claude François était une thérapie.
Claude François était leur dieu. Était leur dieu, quelque part, leur sauveur. Comme moi, c'était Ivanhoé. Quand je regardais la télé, j'appelais Ivanhoé.
Oui. Bah,
elle, c'était Claude. Voilà, Carlito.
Oui, nous sommes trois.
Je vous présente Carlito.
Nous sommes trois, nos auditeurs.
Qui en a peut-être un peu marre.
Carlito en a un peu marre. Bon.
Voilà.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette période?
Tout.
Tout.
Tout. Il n'y a rien acheté.
Il n'y a rien acheté.
Non, ouais. Je garde tout. Tout était génial. J'ai aucun mauvais souvenir. Sauf quand je me suis fait virer la première fois. Quoi. Parce que j'ai vu les filles à la télé, j'ai dit, mais j'aurais pu être là. Et là, j'ai eu très peur de jamais... Là, par contre, j'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est mort.
Fini.
C'est fini pour moi.
Il vous a rappelé?
Il m'a rappelé, heureusement. Mais le jour, parce que je suis rentrée dans l'ambiance du truc.
Oui.
Ça y est, j'étais Claudette. Et ma première télé, hop, tout ça à cause de Guy Lux aussi. Parce qu'il y a eu une histoire avec Guy Lux aussi.
Allons bon.
Oui, parce qu'il y a eu l'histoire où je suis tombée dans les escaliers. Mais il y a eu l'histoire de Guy Lux, où Guy Lux se permet de me mettre la main aux fesses.
OK.
Donc, je me retourne et je lui dis, ça va pas, non? Enfin, j'ai eu une réaction un petit peu froide et négative, même si c'est Guy Lux, ça a été ma réaction. Et Guy Lux est parti voir Claude, il lui a dit « Ta danseuse, là, Carole, là, elle danse pas bien, tu devrais la dégager. » Donc Claude l'a écouté, puisque c'était la première fois. Et voilà, mais c'est Guy Lux qui a
été balancé. Ça, vous le racontez pas.
Je ne l'ai pas raconté, ça.
Je...
Il me semble que non.
Ou alors c'est moi, mais
en
c'est...
En tout cas, il me semble que je l'ai raconté, mais peut-être que... Peut-être que ça a été zappé. J'ai fait tellement de brouillon, si vous voulez. Pendant 10 ans.
D'accord.
10 ans, ce bouquin.
Oui, vous le dites, ce livre, à la fin, vous expliquez que ce livre vous a mis 10 ans à écrire.
Ouais, ouais.
On parlait de bons souvenirs. Bon, alors là, le coup de Guy Lux, c'est peut-être un peu plus triste, mais des souvenirs...
Guy Lux, je n'ai peut-être pas raconté parce que peut-être qu'il ne fallait pas le faire, mais j'ai le droit de le dire en interview.
Mais totalement, bien voilà. Sûr.
De toute façon, il n'est plus là, ce monsieur, donc... Voilà.
Tant de souvenirs que vous gardez de positifs de cette période. Il y en a une personne, alors là, pour moi, c'est le fil conducteur du livre, qui garde un souvenir merveilleux de cette période et qui n'est plus là, c'est votre maman.
Ouais.
Votre maman, vous l'évoquez tout au long du livre, on va y revenir. Hein, mais vous l'expliquez, alors Carlito remonte sur sa maman, vous l'expliquez, vous avez toujours eu des rapports compliqués avec elle, des rapports distendu, complice, plus froid?
J'ai jamais bien compris, en fait. Jamais bien compris. En fait, elle était très mère poule.
Oui.
Ça, c'est sûr. Mais vous savez, à l'époque, c'était pas... Aujourd'hui, on fait énormément attention aux enfants, à ce qu'ils disent pas, le pourquoi du comment, la méthode Montessori. Enfin, bon, les parents apportent énormément d'attention aux enfants aujourd'hui.
Oui.
À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, les enfants, ils déjeunaient à côté des parents, c'était pas la même table, etc. Et donc, ma mère était très mère poule, mais en même temps, pas très affective, pas très affectueuse. Et il y a eu de l'affection. Mais bon, il y a eu des drames à la maison. Et puis, il y a eu des choses que je n'ai pas oubliées, que j'ai essayé de la consoler quand elle a perdu le fils de
Georges Carpentier.
Et donc, elle m'a repoussée. Enfin, elle m'a mis en pension. J'en ai souffert, moi je ne l'aurais pas fait, j'aurais jamais eu ma fille en pension parce que je hurlais dans le car, je hurlais, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était l'enfer pour moi. Mais ma mère m'aimait. Et moi, plus tard, elle avait besoin de moi. Plus tard, elle s'est nourrie de ma vie en fait. Plus tard, quand j'étais plus grande et quand je suis devenue Claudette. Donc elle avait besoin de me voir tous les jours. Et donc on se voyait tous les jours et si je ne venais pas un jour, elle n'était pas contente, quoi.
Elle vous appelait 5 fois par jour?
Oui. 5 fois. Et un jour, elle a même débarqué chez moi, alors que j'étais avec le père de ma fille, parce que je ne l'avais pas appelée une journée. Elle est rentrée. Elle est venue carrément...
Chez vous?
Oui. Elle était très possessive vers la fin.
Parce qu'elle vous sentait, partir dans ce monde du show business, des paillettes, peut-être?
C'est quand j'ai quitté la maison, ça lui a fait beaucoup de mal.
D'accord.
Paradoxalement. Ça lui a fait beaucoup de mal... Mais je suis sûre qu'elle m'aimait, mais à sa façon. Elle n'avait pas eu une enfance très heureuse non plus, donc elle ne savait peut-être pas ce qu'était la tendresse. Elle a perdu un frère à la guerre, sa mère est partie très jeune, sa belle-mère était méchante, donc voilà. Vous savez, on reproduit, hein, quelquefois.
Et votre ouvrage, vous l'appelez...
Ma maman n'était pas une femme méchante, sauf que elle avait simplement une façon d'aimer à elle, quoi.
Mais c'est intéressant ce que vous me dites là, puisque ce livre ne parle pas que de vos années Claudette, il parle véritablement de vous. Et tout au long de l'ouvrage, on a l'impression que c'est un appel à votre maman, que vous lui parliez, parlez tout au long du livre, vous la cherchez, vous lui dites des choses.
Mais elle me manque, elle m'a toujours manqué. Ça a été, parce qu'en fait, je suis devenue orpheline à l'âge de 25 ans. Parce que j'ai perdu mon père à 18 ans.
Oui.
Ensuite, j'avais... Bon, les parents de mon père n'aimaient pas ma mère, donc je les voyais peu. Ensuite, son père à elle, j'adorais mon grand-père, donc le seul grand-père que je voyais, en fait. Il est parti, et quand ma mère est partie, j'étais comme un petit oiseau, là, tombé d'un arbre, et ça a été plus personne. Terminé, j'étais seule, toute seule. Et comme j'étais très petite fille et que ma mère me couvait énormément, mine de rien, j'étais complètement perdue, quoi.
Ouais.
J'avais personne sur qui me raccrocher. J'avais plus personne, plus de famille. Et à 25 ans, moi, j'étais très gamine. Aujourd'hui, les jeunes de 25 ans, c'est pas pareil. On est dans un monde beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc les jeunes... Ils sont beaucoup plus forts. Mais moi, j'étais vraiment une gamine à 25 ans.
Quand votre maman a disparu.
Ah non, mais à chaque fois qu'on m'en parlait, j'en pleurais. J'ai pas... Le deuil, j'ai dû le faire, il y a 10 ans.
Mais est-ce que ce livre n'est pas, justement, une façon de faire le deuil? Puisque je pense sincèrement que...
Ça a été dur en l'écrivant.
C'est pas vous le sujet, c'est pas Claude François. C'est votre maman qui revient régulièrement.
Tout le temps.
Tout le temps.
C'est vrai, Je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais ça revient souvent.
C'est tel que, alors, chaque lecteur en sera juge.
Il y a ma vie aussi après, qui n'était pas facile non plus.
Il y a votre vie, mais votre maman, je l'ai vue.
On la ressent partout.
Oui.
En fait, ma mère j'aurais préféré avoir ma mère et pas avoir tout ce que j'ai hérité et faire toutes ces conneries, quoi. J'aurais préféré garder mes parents, c'est sûr.
Et pourquoi j'y pense et enfin j'oublie? Vous voulez oublier quoi dans ce livre?
Mais en fait, pour vous dire la vérité, on a dû changer le titre parce que j'y pense. Au départ, c'est j'y pense et puis j'oublie. mais c'est un titre de Claude.
Ah,
donc
en
on
n'avait
pas
droit.
Le droit.
D'accord.
Voilà. Donc on a rajouté enfin.
Et vous voulez oublier dans tout ça
et
les
enfin,
mauvais moments.
J'aimerais, oui, enfin, enfin, j'oublie.
Et ça vous a aidé?
Ça m'a aidé.
Ouais.
Le enfin est pas si mauvais que ça.
Et pas si mauvais que ça. On va évoquer, bon là on parle de souvenirs un peu plus lourds à porter et à se remémorer, mais il y a des souvenirs merveilleux que vous avez avec votre maman à Saint-Tropez, vous nous parlez dedans
ouais.
dans le livre.
Oui, ben, on allait tous les ans à Saint-Tropez. Oui, c'était ben, en fait, c'est comme avec ma fille. J'étais seule avec elle,
ouais.
tout le temps seule avec elle. Il n'y avait pas de papa, il n'y avait rien. Et donc, c'était avant la rencontre de mon beau-père. C'était un peu plus tard quand elle a rencontré mon beau-père. Mais quand j'étais seule avec elle, j'étais tout le temps avec ma maman. Et quand on allait à Osgore, je dormais avec elle. Mmh. Donc, j'ai eu des moments très, très, très particuliers, très proches avec elle.
Ouais.
Et après, elle s'est un peu envolée avec mon beau-père. Elle a, si vous voulez, il y a eu des moments très forts avec elle. Et puis, quand mon beau-père est arrivé, elle m'a un peu lâchée. Donc, en fait, c'est pour une enfant, c'est difficile.
C'est compliqué.
Oui, parce qu'il est arrivé, j'avais 8 ans.
Et quand elle est partie, vous dites que votre beau-père s'en doutait.
Mon beau-père, il ne m'aimait pas, de toute façon, d'entrée de jeu. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, il n'aimait pas les enfants.
Et pourtant, il vous couvrait de cadeaux.
Après.
Après,
bien après. Il a appris à me connaître, mais ça a mis du temps.
Ça a mis du temps, oui.
Ouais. C'était, il est arrivé, j'avais 8-9 ans. Le début était un peu compliqué parce qu'il arrivait, il prenait toute la place dans l'appartement, même mon chien, il essayait de me piquer mon chien, j'avais un petit équel, en le faisant venir, en me disant, tu vois, il me préfère moi que toi, enfin des piques, il me frottait les oreilles très fort jusqu'à ce qu'elles soient rouges.
Ça me faisait marrer.
Ça me faisait mal. Et il balançait des vannes, c'était, voilà. Et après, ben, c'était lui ou moi. Donc après, ils ont dit, bon, on va la mettre en pension pendant qu'ils allaient se la faire belle à Venise, dans les plus beaux hôtels, partout, à droite et à gauche, quoi. Mais bon, après, j'en ai profité, plus tard.
Plus tard. Et vous aviez, on va évoquer, parce que ça aussi, ce sujet est récurrent dans le livre, vous aviez un point commun, vous vous compreniez sans l'évoquer.
Oui. Sur un point, sur la drogue.
Ouais.
Ouais, parce qu'en fait, lui, il avait des énormes calculs rénaux. Et donc, il était obligé de prendre de la morphine. Parce que sinon, il souffrait tellement qu'il était obligé de se piquer à la morphine. Et donc, il avait toujours sa trousse Hermès avec ses seringues. Parce que mon beau-père était très, très maison. On n'a pas le droit de dire des marques. Enfin, bon... Et donc, il se piquait à la morphine. Donc, automatiquement, il a des petites pupilles en tête d'épingle parce que ça donne ça. Et moi, il voyait mes pupilles comme ça. Et un jour, il m'a dit, je pense que tu touches à quelque chose. Donc, voilà, c'est là où on n'a pas commencé à se comprendre. Mais c'est vers 16-18 ans qu'il s'est un petit peu rapproché de moi. Et parce qu'il me trouvait jolie, donc il m'emmenait avec moi partout, à la maison du caviar, au Fouquet's. Il déjeunait tous les jours au Fouquet's.
Oui, vos parents avaient leur table.
Leur table au Fouquet's, oui.
Ouais.
Et la maison du caviar, il m'emmenait. Puis après, quand ma fille est née, par contre, il a adoré ma fille.
D'accord.
Ah oui, il a adoré ma fille. Ma fille, ça n'avait rien à voir avec moi, quoi. Il a beaucoup de tendresse pour ma fille.
Et puis, vous l'évoquiez, vous compreniez tous les deux, et c'est au moment où votre maman s'en va.
Ah ben là, il était très dur.
Mais même que pour vous, en termes de consommation, tout dérape.
Ah ben oui. Oui.
Du côté festif, vous avez
déjà,
des idées noires aussi.
Quand je l'appelle et je lui dis « Maman est partie », il me dit « Je m'en doutais
».
Il n'a même pas déposé une rose, il ne m'a même pas accompagnée au cimetière, il m'a laissée tout seul comme... Il m'a laissée toute seule comme dans un autre problème que j'avais eu avec les douanes. Bref, il m'avait dit surtout de ne pas dire... Enfin bon, bref. Quand j'ai hérité du compte en Suisse de ma mère, les douanes avaient balancé certaines... Il y avait eu des comptes qui avaient été balancés. Et donc, il m'a dit... Et je l'appelle et je lui dis, écoute Jean, viens m'aider. Il m'a dit, oh là là, non, tu ne donnes pas mon nom surtout. Enfin, vous voyez, dans les galères, c'était... pas d'aide.
Et vous avez pensé même au pire quand votre maman, vous l'écrivez dans votre ouvrage, quand votre maman est partie?
Ah moi, je voulais la rejoindre, ça c'est sûr. Ah oui, moi, j'avais plus envie de vivre.
Ouais. Et puis vous êtes vous êtes accroché. Il y a eu d'autres choses.
Quelqu'un m'a aidé. J'ai rencontré un philatéliste qui m'a. Parce que bon, il faut dire que quand ma mère est décédée, il y a l'incarcération. Donc Eduardo, le père que j'avais rencontré, mon amoureux, qui est le père de ma fille, quand nous sommes tombés en prison tous les deux. Moi, quand je suis sortie, j'étais seule et je venais de perdre ma mère quelques mois avant.
Oui, ça.
Il y a un enchaînement de choses.
Le père de votre fille, donc on peut peut-être l'évoquer, oui. Que vous avez rencontré, c'était l'homme le plus beau. Enfin, vous avez un coup de foudre fantastique.
Oui. un bel Argentin, oui.
Un bel Argentin.
Ah, le premier jour où on s'est vu, ça a matché, comme on dit.
Et ça a bouleversé votre vie, ça, cette rencontre aussi, dans le sens positif.
Ah oui,
là.
Oui. C'était un coup de foudre comme jamais j'en avais eu.
Et ses fréquentations, puisque ça, c'est une histoire rocambolesque.
C'est venu après, ça.
Rocambolesque. Ouais. Il y avait deux Eduardo.
Il y avait deux Eduardo, ouais. Et en fait, la police a cru que c'était lui, mais en fait, c'était pas lui.
C'est le mauvais qu'ils ont mis en prison.
Mais en fin de compte, ils nous ont mis en prison parce qu'ils ont quand même trouvé des paquets, des petits paquets. Des petits, je dis bien, des petits paquets vides aussi, mais un paquet vide compte pour un paquet plein.
Mais, oui.
Mais ce n'était pas le fameux Eduardo qui recherchait. Et quand le commissaire, le dernier jour du Quai des Orfèvres, me dit « Eh ben oui, on s'est trompé, ce n'était pas lui », ça fait un peu, mais de toute façon, étant toxicomane, on était incarcérés. Ouais. Et lui, de toute façon... il vendait un petit peu, mais c'était pas un gros poisson de dealer, quoi. C'était pas lui qui cherchait, en fait. Beaucoup d'Eduardo à l'époque, parce que il y avait beaucoup de Sud-Américains qui avaient débarqué à Paris.
Qui fuyaient les dictatures.
La dictature de leur pays. Il y avait beaucoup d'Argentins qui venaient à Paris.
Et donc, vous rencontrez Eduardo. Il y a toute cette histoire que vous racontez très bien dans votre ouvrage. Et après, il vous a donné la plus belle chose au monde, vous le dites.
Ma fille.
Votre fille Fanny.
Ouais. Le beau cadeau. Plus belle chose qui m'est arrivée.
La plus belle chose qui vous est arrivée. Et vous le dites. Et alors là, on comprend. Votre maman et votre histoire est toujours en filigrane dans ce livre. Vous dites, je ne serai plus jamais seule. Ça y est.
Ouais. Ah oui, j'avais. Oui. Ouais. Je me sentais très, 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 très seule.
Vous étiez heureuse.
J'avais des amis qui avaient des familles, évidemment, et ils me demandaient de venir déjeuner dans des déjeuners de famille. Je ne pouvais pas. Ça me faisait mal d'aller dans un déjeuner de famille, de voir un père, une mère, des sœurs, des frères. Ça me faisait mal. C'est terrible de ne plus avoir de famille. Je vous assure, c'est affreux. Mais il y en a sans doute qui le savent, parce qu'ils sont sans doute... Mais quand on n'a plus de papa, plus de maman, qu'on est jeune... Ben moi, je ne supportais pas. Quand je voyais une famille, ça me faisait mal.
Ça vous faisait mal.
Ah oui, non, mais vraiment. Hein. Même encore aujourd'hui. Hein.
Même encore.
Ouais.
Même quand vous avez vos enfants.
Ah, mais non, c'est ma fille,
enfants.
C'est pas pareil. Ma fille, mon petit-fils, mais je veux dire par là que quand il y a des familles que je rencontre, etc., ça me rend triste à chaque fois.
D'accord.
Même aujourd'hui. J'ai le regret de ne pas avoir eu. La famille, c'est tellement important et tout le monde dit que quand on est seul, le plus important, c'est la famille. C'est vrai, le plus important, c'est la famille. Ma fille est un amour et elle est là, elle est présente, elle est d'une bienveillance. Oui, quand j'ai eu mon petit bébé qu'on m'a posé là, j'ai dit là. Même quand elle était dans mon ventre, je me sentais déjà plus seule.
Et donc, quand votre fille Fanny est née, vous le dites dans votre livre, vous ne seriez...
Plus jamais seule.
Voilà, vous ne seriez plus jamais seule.
Ouais.
Et puis, elle était... Même qu'à l'époque, vous l'aviez dans le ventre, vous vous sentiez...
Déjà, j'avais quelqu'un... J'avais un petit bout dans le ventre.
Ouais.
J'étais déjà nourrie d'affection, quoi. Ouais. Déjà nourrie d'affection.
Et puis dans votre appartement du 16e, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, en off, Michel Berger et France Gall étaient venus vous voir.
Oui, ils sont venus, ils sont trop mignons tous les deux. Ils étaient d'une simplicité, je veux dire, ils ne se prenaient pas pour des stars. Hein. Ils sont venus dîner, je leur ai fait un steak avec des petits pois, un truc ridicule. Elle qui fait des dîners exceptionnels, moi j'ai fait un steak avec des petits pois. Mais ils ont été adorables. Mais France, elle voulait voir tous les endroits où j'habitais. Elle me suivait de près. Hein. Mmh. Elle voulait que je sois bien. Elle parlait beaucoup de moi à ses amis. Elle voulait que... C'était comme une grande sœur.
Ouais. Avec Eduardo, cet enfant avec Eduardo. Puis dans votre ouvrage, vous évoquez aussi beaucoup de... Enfin, non, beaucoup, pardonnez-moi, mais plusieurs autres relations.
Dont oui, une... mais platonique. Hein.
Platonique.
Ah oui, beaucoup de une... relations platoniques, en fait.
Alors, on a eu... On parle de...
J'ai la trouille du bonheur, je le mets en... oui. Très souvent.
Alors là, ben, on peut y venir maintenant. Vous écrivez que vous n'avez jamais été protégé émotionnellement non. Et que vous ne savez pas vous y prendre pour être heureuse. Je n'ai jamais su m'y prendre pour être heureuse, page 140.
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas quelqu'un d'heureux, déjà, à la base. Mais c'est comme ça. Et j'avais très peur, donc, d'être trop heureuse. Et je voyais déjà six ruptures pour moi. Parce que j'ai vécu une rupture qui m'a...
Avec vos parents ?
Qui m'a, oui, et avec un garçon aussi, avec qui je suis restée un certain temps et qui m'a fait énormément de mal. J'ai mis presque un an à m'en remettre. Donc après, ça a été vraiment... j'étais odieuse avec les hommes, quoi.
Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis.
Voilà, je voulais pas tomber dans le piège de l'amour. Je fuyais le bonheur. Je fuyais le bonheur, si le bonheur il y avait, en même temps. Hein, c'était pas... Donc ça restait platonique. Parce que moi, dans ma tête, j'avais quand même... J'en voulais aux hommes, énormément. Par rapport à ce que mon père a fait à ma mère. C'est-à-dire, comme il la frappait, déjà, j'avais une dent contre les hommes.
Oui.
Donc, je ne leur faisais pas confiance. Donc, déjà, à la base, quand je rencontrais quelqu'un, j'avais du mal à faire confiance et à me donner, moi, à donner tout mon amour et à me donner entièrement. Donc, je gardais énormément de réserves. Et à force de garder des réserves, bon, ben, à un moment donné, le garçon... Ben, voilà, c'était comme ça. Et je me dis toujours dans ma tête, une fois que l'acte est fait, c'est fini, il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus la magie.
C'est ce qu'on dit des hommes, normalement.
Ouais, une fois que c'est fait, il n'y a plus la magie.
Ok.
Alors, je préférais rester... voilà, c'était comme ça.
Il y en a un avec qui
bon,
c'est rien passé.
J'ai eu des relations quand même. Je ne suis pas restée nonne toute ma vie.
Et il y en a un avec qui il ne s'est rien passé. Pourtant, vous racontez dans le livre, c'est une anecdote succulente. C'est avec Maurice Albert.
Ah, Maurice Albert, oui. Ah oui ?
Il était fou de vous.
Ah ben oui, il m'envoyait des fleurs à Paris, il me téléphonait, je venais d'emménager, j'avais pas encore le téléphone. Donc c'est la gardienne qui venait frapper à 4h du matin parce qu'il habitait au Brésil, lui.
Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est...
Non, en fait, il est tombé fou amoureux de moi dans une émission de télé, Dilux.
Oui.
Quand il chantait et il regardait, nous on était en randonnion avec les Claudettes pour les répètes, les répétitions, la balance. Et donc, il chantait « Feeling » et il regardait dans les diables. On était là, c'est à toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et en fait, c'est moi. Et quand il est dans la loge du maquillage, j'avais une petite alliance. On avait une petite alliance, France et moi. Et il me dit « Vous êtes mariés ?» Il était affolé. Juste, elle est mariée. Non, non. Et là, on ne s'est plus quittés jusqu'à la fin de l'émission. Et... Lui, il partait pour le Brésil et nous, on partait en tournée. Donc, c'est grosse séparation.
Ouais.
Et il a continué à m'envoyer des télégrammes et il a dit, je vais venir te chercher pendant la tournée, parce qu'on partait en tournée. Je vais venir te chercher à Cannes et tu vas revenir avec moi au Brésil. Donc, il a parlé de moi à sa mère. Alors, quand il est arrivé, tous les musiciens l'attendaient. Claude, oh là là, ça a été une pagaille, cette histoire.
Et Claude François se retournait vers vous et vous chantait « Feeling ».
Il était furieux. Ben oui, parce qu'en plus, il était jaloux, parce que Claude, c'était ses Claudettes.
Ouais.
Donc, d'accord.
Le coq.
Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et en plus, il était numéro un, « Feeling ». Donc, voilà.
Ce qui lui a valu un procès, d'ailleurs, puisque
la
musique...
Ah oui, avec
Lynn
Moreau.
Le mari Lynn Renaud, Loulou Gasté.
Elle m'a appelé chez moi, Lynn Renaud.
D'accord.
Elle m'a appelé, elle m'en a parlé, elle m'a dit, vous savez, Carole, c'est fou, quoi. Elle m'a appelé à la maison pour m'en parler.
Eh ouais.
Je m'en souviens très bien, au Schaeffer.
Un livre, où vous apprendrez les amours.
Il ne faut pas tout raconter.
Ben voilà, c'est ça, il y a d'autres histoires encore succulentes et toujours bienveillantes sur cette vie de Claudette, cette
y
vie
amie. Il y a de tout.
Il y a de tout.
Il y a de tout, en
fait. À mille à l'heure. De toutes ces années...
Moi, je me suis bien amusée aussi. Hein. Je suis sortie tous les soirs.
Ah ben voilà, c'est ça. Vous étiez un colibri.
Voilà, un colibri. Ça bouge tout le temps.
Oui.
Et ça ne se pose jamais. Donc voilà, d'où la relation avec les hommes. D'où, voilà, ça veut dire beaucoup de choses, cet emblème du colibri. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai tatoué, d'ailleurs.
Ah, vous avez un tatou...
Oui, j'ai un petit colibri là.
Un petit colibri sur le bras, voilà. L'avant-bras.
Il y a très longtemps que je l'ai.
Et là, le colibri ne bouge plus de Trouville.
Là, il ne bouge plus. Celui-là, il ne se pose pas, mais moi, je me suis posée là.
Bon. De toutes ces épreuves, de toutes ces joies, parce que c'est un livre aussi où il y a beaucoup de joie, de bons moments
que
Carole
fête,
vous racontait avec Claude.
Oui. J'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis beaucoup amusée.
Qu'est-ce que vous...
Aussi.
Vous gardez ce goût de la liberté, c'est de tout ça que vient ce goût de la liberté,
oui.
Des bons et des mauvais moments.
Oui, même voilà, j'ai choisi tout, voilà. J'ai toujours besoin, je veux rendre de compte à personne. J'ai jamais voulu rendre de compte à qui que ce soit. Je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux. Et voilà, cette liberté, ça peut coûter cher parce que par moment d'être seule, c'est pas facile. Mais moi, il n'était pas question que je sois mains et poings liés.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette mille et unième ? Alors votre mille et unième vie, c'est votre
bonheur,
petit-fils.
Que du bonheur, que du beau temps et que je trouve peut-être un peu le bonheur, un peu la joie de vivre. Ici, je suis heureuse,
ouais.
Un peu plus heureuse.
Sur les planches ?
Sur les planches de Deauville. Je me balade. Moi, la mer, ça m'inspire. Quand je regarde la mer, je suis bien. D'ailleurs, tous mes amis me disent « t'as l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, moins stressé ». Non, je suis bien ici.
Vous êtes bien. Mais en tout cas, merci. Je vous rappelle votre livre, Carole Plumel, « J'y pense » et « Enfin, j'oublie » aux éditions du Rocher.
Enfin,
non, Robert Laffont.
Le « Enfin », il est ici. Le « Enfin ».
Voilà, le « Enfin », il est ici à Trouville. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci à vous. Merci
ici
infiniment.
Chez vous.
Merci.
Et à très bientôt sur Mélodie.
Bien sûr, à très vite.
Cette émission est disponible en podcast et partout sur toutes vos plateformes, sur YouTube et sur Mélodie. Merci.
Yes.
Merci, à bientôt.
Merci.
Mélodie, la radio vintage forever.